On va parler de cette association Parler qui amène compréhension et empathie pour c'était 400 femmes dans 7 villes l'année dernière, enfin en 2019. Et on est avec Marine Gobi qui est coordonnatrice bénévole de l'antenne rennaise. Plusieurs objectifs, se réparer quand on est victime de violences sexuelles, faire changer les mentalités, c'est encore un autre aspect. Et puis ces deux aspects, cesser l'impunité puisque seulement 1% des personnes sont condamnées et faire augmenter les dépôts de plaintes puisque pareil le pourcentage est extrêmement faible. Déjà sur le constat de départ qu'il pouvait y avoir, est-ce qu'il y avait une vraie demande, un vrai manque de structure, d'écoute justement pour les femmes victimes de violences sexuelles sur Rennes et en général?
Alors moi ce que je peux vous dire c'est uniquement par rapport au territoire rennais. Donc on a ouvert l'antenne il y a tout juste un an, en septembre 2019. À l'époque on a ouvert l'antenne parce qu'on avait eu beaucoup de demandes, il y avait uniquement Paris à ce moment-là comme antenne et on avait reçu beaucoup de demandes du Grand Ouest. Donc on s'est dit que c'était assez stratégique d'ouvrir à Rennes étant donné que moi je suis rennaise. Et en fait, on est passé de 5 personnes en septembre 2019 à 50 aujourd'hui sur la liste des personnes nous ayant sollicitées pour participer aux rendez-vous, les rendez-vous étant ces groupes de parole entre pairs. Donc voilà, c'est assez flagrant comme constat, c'est qu'il y a un besoin. Beaucoup de femmes nous font remonter le fait qu'elles n'arrivent pas à trouver des groupes de parole sans thérapeute, parce que c'est bien l'objet, là on n'est pas dans une démarche thérapeutique, mais vraiment dans une démarche de dire pour la première fois, alors soit dire pour la première fois ce qui nous est arrivé, soit dire pour la première fois certains aspects de ce qui nous est arrivé, parce qu'on sait que la parole est souvent guidée par la personne à qui on s'adresse en fait. Si on s'adresse à des proches, on va peut-être avoir tendance à minimiser certains aspects. Quand on s'adresse à un thérapeute, on va aller sur un autre terrain. Là, on est entre pairs, donc on part du principe qu'on peut tous dire et que tout est audible. Après, on a des animatrices qui sont là pour s'assurer qu'il y ait une médiation, que ce ne soit pas non plus un déchargement de tout ce qu'il y a de plus violent et que ça vienne traumatiser les autres personnes participant en groupe. Mais concrètement, oui, cette évolution du nombre de personnes qui est constant, qui est renforcée là, depuis la période de confinement qu'on a connue, marque ce besoin qui existe sur le territoire rennais.
Il y a des méthodes particulières justement pour assurer cette médiation, pour le déroulement d'une séance et que ça se passe bien et que la parole puisse se libérer?
Alors ça a été un apprentissage collectif avec l'équipe fondatrice de l'association quand on s'est lancé, donc à l'initiative de Sandrine Rousseau, qui est donc une ancienne élue d'Europe Écologie Les Verts, qui était victime de Denis Baupin. L'idée c'était vraiment d'ouvrir un espace pour pouvoir parler. Parce que son constat c'était que quand on parlait, on n'était pas entendu ou juste on ne pouvait pas le faire. Donc on s'est formé ensemble en fait, les premières participantes et bénévoles, on a appris ensemble comment faciliter la prise de parole, comment aussi faciliter l'écoute, parce que c'est aussi en écoutant nos camarades pendant les rendez-vous qu'on ose des fois dire certains détails de notre histoire qu'on n'avait pas forcément partagés. Et après c'est beaucoup une question d'humain. Donc oui, on fait des formations en interne, on s'est aussi inspiré de ce qui se faisait dans d'autres associations qui ont comme principe la paire aidance pour faciliter la prise de parole et puis la médiation dans ces groupes.
Et justement, les étapes de la libération de la parole, c'est quoi qui se joue? C'est justement quand plusieurs femmes vont parler de la même expérience, ou c'est à quel moment où on va sentir vraiment ce moment où la parole est libre?
Je pense que ça dépend beaucoup des personnes en fait. Je ne sais pas si la parole, si on peut dire que la parole est libre, c'est, en tout cas c'est un espace où elle peut l'être. Après c'est à chacune en fonction de l'étape à laquelle elle est rendue dans son parcours de reconstruction. À chacune de voir ce qu'elle est capable de dire ou ce qu'elle a envie de dire, ce sont deux choses différentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, mettre des mots sur ce qui nous est arrivé, ça nous apparaît comme le premier médicament si on estime que on a été victime d'un événement traumatique. Et pour guérir ce trauma, la première chose, c'est de pouvoir dire ce qui est arrivé. C'est une première étape. Après, ça ne guérit pas tout. Chacune va avoir son parcours. Ça prend des années. Ce sera toujours là en nous. Après, c'est comment on continue à vivre et comment on en fait aussi une force pour trouver une place dans la société et puis aller questionner les origines sociétales qui permettent ces situations. Parce que ce qu'on observe, en tout cas sur le groupe Rennais, sans schématiser et sans être trop caricatural, néanmoins on peut observer qu'il y a 5-6 types de situations qui se reproduisent beaucoup, notamment les violences intrafamiliales, les violences dans le cadre du travail, dans le cadre d'associations sportives. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup. Donc ça se retrouve, c'est que c'est pas lié à une personne en particulier ou à un agresseur ou à une personne qui a été victime. C'est bien qu'il y a des schémas dans la société et qu'il y a des choses à déconstruire. Maintenant, nous, l'objet de l'association, c'est vraiment de focusser sur les victimes, en tout cas sur les femmes qui ont été victimes à un moment donné, et de leur permettre de mettre des mots. C'est ça notre objectif premier. Après, si ça vient nourrir une réflexion sociétale, tant mieux. Mais c'est avant tout de permettre la prise de parole, et puis idéalement d'aller vers des dépôts de plainte qu'on encourage. C'est pas forcé, c'est pareil. Ça dépend de chacune, et chacune a le moment pour le faire, mais on l'encourage parce qu'effectivement, comme vous le disiez en introduction, s'il y a des dépôts de plaintes plus nombreux, ça nous permettra de mieux se rendre compte du problème.
On va rester un petit peu sur cette notion de dépôt de plainte. Il y a dans les chiffres qui ressortent, donc vraiment des chiffres très faibles de dépôt de plainte, et dans les raisons invoquées, c'est que ça ne changera pas les choses, ça ne servirait à rien. Est-ce que dans les témoignages que vous avez, il y a moyen de développer un petit peu plus ce pourquoi du manque de plainte? Est-ce que c'est la façon dont les forces de l'ordre le reçoivent? Est-ce que c'est quelque chose de psychologique? C'est une défiance vis-à-vis du système judiciaire qui ne fera pas son travail?
Alors je pense qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, faut savoir que parler tout court, et puis parler ensuite à la police, c'est s'exposer. C'est s'exposer à certains risques, au risque que notre famille n'accepte pas, que notre environnement professionnel ne l'accepte pas. Donc éventuellement, c'est ces risques de se retrouver exclu, alors qu'on n'y est absolument pour rien, mais c'est une réalité. Ce sont des choses qui sont difficiles à entendre pour l'entourage des victimes, et donc qui, des fois, préfère nier la chose plutôt que l'accepter, l'écouter, l'entendre et faire ce qu'il faudrait faire. Donc déjà, il y a cette dimension-là. Aller porter plainte et donc rendre officiels les faits qui nous sont arrivés, ça devient officialiser aussi une situation qui n'est pas entendable par certains et certaines. C'est une première chose. Donc c'est extrêmement difficile de faire cette démarche-là. Ensuite, effectivement, même si les choses ont tendance à changer et qu'on a au niveau de différentes associations maintenant un travail avec les forces de police, de gendarmerie, un travail intéressant et que ça évolue, il faut quand même constater qu'on est souvent mal reçu. C'est 80% des témoignages ou 90% des témoignages des femmes qui ont déposé plainte et qui viennent à parler, qui nous disent « mais ça a été l'enfer quoi ». Qu'elles aient été reçues par des hommes ou des femmes. Hein. Là, on est vraiment... C'est indistinct au niveau du genre, pour le coup. Donc, c'est qu'il y a encore un travail à faire sur comment on accueille cette parole-là. Comment on remet les forces de l'ordre dans leur rôle qui est de prendre la plainte et qui n'est pas de juger l'événement et de se positionner à la place de la justice, justement. Déjà, pour que la justice puisse faire son travail, il faut que les mots soient écoutés. Et effectivement, quand on a été victime de ce type de fait, ça peut venir de façon décousue. Ça peut être compliqué de structurer son propos. Et il me semble que des professionnels devraient être capables d'accompagner la personne pour que les mots soient posés. Et puis ensuite, la justice fera son travail. Mais il y a déjà ces deux éléments-là, la difficulté à prendre la parole et puis la réception des forces de l'ordre. Après, est-ce que la justice fait son travail ou pas? Là, moi, je ne suis pas une experte à parler, on n'est pas experte de ces domaines-là. Il y a des associations qui sont bien plus qualifiées que nous pour en parler, mais voilà, il y a tout un sujet autour de la dépénalisation, il y a beaucoup de choses qui se jouent sur la reconnaissance... du viol en tant que viol et donc en tant que crime, mais là je suis pas qualifiée pour en parler.
On sait que c'est quand même des affaires qui mettent, comme beaucoup, hein, on se l'a dit, énormément de temps à être jugées. Est-ce qu'il y a un phénomène un peu aussi d'officialisation un peu quand on dépose plainte? Est-ce qu'après il y a une sanctuarisation d'espèce de rôle de victime pendant toutes ces années-là, pendant cette sensation d'avoir un peu officialisé, d'avoir intériorisé le fait d'être une victime de violence sexuelle et non plus une personne à qui il est arrivé?
Là c'est pareil. Je ne peux pas parler avec mon ressenti, je suis obligée de parler avec ce que j'ai entendu dans les groupes de parole. Et en fait, ça dépend beaucoup d'une femme à l'autre. Si on, on pourrait penser qu'effectivement, le fait d'avoir déposé plainte nous enferme dans une position de victime. Pour certaines, c'est peut-être le cas. Ce que j'ai pu entendre et observer dans les groupes, c'est que pour certaines, c'était au contraire une façon de dire « oui, je l'ai été, voilà ce que je viens de déposer, maintenant, c'est aussi une façon de me réapproprier ma vie et de continuer ». Donc je crois que ça dépend beaucoup des femmes. Il y a des femmes qui ont besoin qu'on reconnaisse ce statut de victime, il y a certaines qui ont extrêmement peur effectivement qu'on les y enferme. Je crois que ça dépend de là où on en est dans notre parcours. Et c'est pour ça que le parcours ne se limite pas à parler ou au dépôt de plainte. C'est un ensemble de choses qui vont faire qu'à un moment donné, ça devient un événement certes dramatique et traumatique dans nos parcours, mais pour autant qui ne nous définissent pas. Et on peut en faire autre chose. Mais ça dépend beaucoup des femmes. Et ça dépend des parcours de reconstruction. Là, à Rennes, on essaye, au niveau du groupe Parler, de développer des activités annexes, parce que c'est quelque chose qui est une demande qui a été émise par les femmes du groupe. Donc, par exemple, là, on est beaucoup sur du sport. On a un groupe de femmes dont une partie ont été agressées dans le cadre du sport, pour qui c'était un défi de retourner courir. Donc on a monté un groupe de footing et on y a été ensemble. Les premières fois, ça n'a pas été sans douleur. Hein. Pour certaines, juste le fait d'être sur les bords de Vilaine, c'était déjà ravivé beaucoup de choses. Mais on était ensemble. Donc on y a été ensemble et aujourd'hui, pour certaines, elles sont prêtes à s'inscrire à des courses, des courses qui sont organisées sur Rennes, durant lesquelles elles vont porter un t-shirt de l'association, ce qui n'est pas neutre. C'est dire au public, bah, regardez, moi j'ai été victime à un moment donné, mais regardez ce que je fais là. Donc c'est un sacré parcours pour ces femmes, parce que ça, bien sûr, c'est leur entourage qui va être témoin de cette évolution-là. Pour certaines, l'entourage est en partie conscient ou au courant de ce qui s'est passé, mais pas forcément tout l'entourage. Donc c'est assez fort. Et puis pour le grand public, c'est une façon aussi de sortir de ces préjugés sur elles ont été victimes ou elles font que se plaindre d'une société patriarcale. Oui, enfin bon, elles ont quand même vécu des choses traumatiques. Et regardez, aujourd'hui, elles sont capables d'aller faire un 10 km en une heure, par exemple.
Vous parliez tout à l'heure, et on y revient là, un peu de la violence sociale que ça représente, aussi le rejet des collègues de travail, de la famille parfois, parce que ça peut être choquant. Est-ce que vous avez la sensation, est-ce que vous entendez ça, qu'il y a une sorte de solidarité, presque de fraternité envers les personnes qui sont plutôt les personnes violentes en l'occurrence? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu?
Alors, c'est pas quelque chose que j'ai entendu. Après, je constate les choses et je m'intéresse à notre société et à cette thématique en particulier des violences sexuelles. Là, on est dans une semaine qui est un peu particulière. Il y a eu un documentaire particulièrement pertinent à être diffusé sur Arte sur les violences sexuelles dans le monde du sport. Force est de constater qu'on a un système qui protège les agresseurs. On ne peut pas regarder ce documentaire qui est justement très documenté et très, très factuel sans se dire comment fonctionne notre société, sans s'interroger et sans se dire qu'à un moment donné, on a une structuration de société qui fait qu'on protège des agresseurs. Maintenant, c'est difficile pour moi d'élaborer plus, parce qu'en fait, je ne suis pas... Je suis une citoyenne comme les autres qui se questionne sur comment on devrait faire, mais je n'ai pas toutes les réponses. Si on les avait, ce serait facile. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire que notre société protège les victimes en premier lieu. Ce n'est pas vrai. Maintenant, les choses bougent un petit peu, doucement, mais ça bouge.